Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les grandes tendances qui façonnent la conception et la fabrication. Mmh. On se base sur le rapport mondial State of Design and Make 2025 d'Autodesk. C'est une grosse enquête, hein, plus de 500 000 décideurs interrogés.
Ah oui, quand même.
Issus de l'ASC, du DMM, des médias, un panel large.
Exactement.
Et le but, c'est de voir un peu comment les entreprises s'en sortent aujourd'hui. Entre les défis, genre les coûts, trouver les bonnes personnes, l'IA qui arrive.
Et les opportunités aussi, j'imagine.
Oui, surtout avec la transformation numérique. Il y a ce mélange d'inquiétudes et d'opportunités, c'est ça qu'on va creuser.
D'accord.
Alors, premier point qui saute aux yeux, la transfo numérique, eh ben, ça marche. La majorité des entreprises, elles voient un retour sur investissement supérieur à 50%.
Ah oui, c'est significatif ça.
Carrément. On parle de clients plus contents, de meilleure productivité, plus d'innovation. C'est pas rien. Il y a même un exemple dans le rapport.
Je vois. Seven Trent Water.
C'est ça. Nitesh Alag qui dit qu'ils vont 50% plus vite et 30% moins cher sur certains projets. Ça donne une idée concrète, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse les simples chiffres. On sent que la technologie passe d'un centre de coût un peu subi, à un vrai levier stratégique.
Mais même dans un contexte économique un peu tendu.
Justement, surtout dans ce contexte. Et ça nous amène directement à l'idée de maturité numérique.
La maturité numérique, c'est où on est l'entreprise dans son adoption du digital, c'est ça?
Exactement.
Plus une entreprise est avancée, plus elle est dite mature. Et là, l'écart est flagrant.
Ah oui.
Expert speaker. Oui, les entreprises matures sont beaucoup plus résilientes. Par exemple, elles sont 41% plus susceptibles de diversifier leur chaîne d'approvisionnement. C'est énorme.
D'accord. Donc plus agiles, plus solides face aux imprévus.
C'est ça. Et elles attirent et gardent mieux les talents aussi. Un avantage de plus de 20 points par rapport aux autres. Et sans surprise, elles investissent plus.
Logique.
Donc cette maturité, c'est un peu le nerf de la guerre, on dirait. Mais qu'est-ce qui bloque celles qui sont moins avancées? C'est les mêmes problèmes pour tout le monde?
Pas tout à fait. Pour celles qui débutent, on retrouve souvent le coût initial. Et puis le manque de compétences en interne. C'est les freins majeurs.
Classique, j'ai envie de dire.
Oui, mais pour les entreprises déjà plus avancées, c'est intéressant, ce sont parfois les limites des outils actuels qui deviennent le principal obstacle.
Ah, c'est paradoxal.
Un peu, oui. Ça montre que les défis évoluent au fur et à mesure qu'on progresse dans la transformation.
C'est logique finalement. Et cette idée de résilience, de stratégie, on la voit aussi sur un autre sujet majeur, la durabilité. Le rapport montre un changement de perception, non?
Oui, clairement. On passe d'une vision de la durabilité comme une contrainte, une case à cocher, à une vraie opportunité business.
À court terme aussi, ou c'est juste une vision lointaine?
De plus en plus à court terme. L'écart se resserre entre la perception des bénéfices à long terme et à court terme. Et la quasi-totalité des entreprises, 95%, disent agir.
Et ce qui est intéressant, c'est que la pression des clients, par exemple, elle semble moins forte que l'année dernière.
Expert speaker.
Effectivement, ça a un peu baissé, globalement. Comme si l'enjeu devenait plus intrinsèque à la stratégie de l'entreprise, moins dicté uniquement par l'extérieur. C'est plutôt positif, je trouve.
Et j'imagine que là encore, la maturité numérique, ça doit jouer.
Énormément. C'est très net. Les entreprises matures voient beaucoup plus les bénéfices business de la durabilité. On parle parfois de 20 points d'écart avec les moins matures.
Ah oui, quand même.
Donc logiquement, elles investissent davantage dans la durabilité environnementale. Et c'est un cercle vertueux. Ça les aide aussi à attirer les talents. Pour 3/4 des entreprises matures, c'est un atout RH, contre à peine plus de la moitié pour les autres.
La durabilité comme argument pour recruter ? Intéressant.
C'est devenu un facteur clé, oui.
Le rapport mentionne aussi l'IA comme un outil pour avancer sur la durabilité, optimiser l'énergie, réduire les déchets. C'est utilisé par presque 4 entreprises sur 10.
Oui, ça progresse par rapport à 2024. L'IA peut vraiment aider à identifier des gains d'efficacité.
Mais
il y a ce paradoxe dont on entend beaucoup parler. L'IA aide, mais ces data centers, eux, consomment beaucoup. Énormément d'énergie, d'eau.
C'est tout le paradoxe, oui. Et ça reflète un peu le sentiment général sur l'IA en ce moment. On sent que le hype, l'enthousiasme initial, commence
à redescendre un peu.
Voilà. On entre dans le dur. La confiance dans le fait que l'IA va améliorer le secteur, elle baisse un peu par rapport à l'an dernier. Et à l'inverse, l'inquiétude qu'elle déstabilise, elle monte.
D'accord. Et pourquoi ce refroidissement? Alors, c'est la complexité.
Expert speaker?
Oui, principalement. Mettre en place l'IA, ça coûte cher, ça prend du temps. Et surtout, ça demande des compétences spécifiques qui sont rares.
Les fameuses compétences en IA.
Exactement. Et puis, il y a les questions de sécurité, de confidentialité des données. C'est pas anodin. Et la réglementation qui peine à suivre le rythme technologique.
Ce qui explique peut-être pourquoi la compétence numéro 1 à rechercher pour les embauches futures, c'est l'IA. presque une entreprise sur deux.
C'est ça, un besoin criant.
Et ça nous ramène aux grands défis globaux pour les entreprises. En tête, on a toujours la maîtrise des coûts.
Sans surprise.
Suivi de près par le rythme des avancées technologiques, justement, et l'IA. Et juste derrière, ce fameux défi des talents. Attirer, former, retenir.
Et ce défi des talents, il s'aggrave vraiment. Plus de 60% des entreprises disent avoir du mal à trouver les bonnes compétences techniques. C'était beaucoup moins l'an dernier.
Ah oui, là où c'est forte.
Très forte. Et pour presque 6 sur 10, ce manque de talent est carrément un frein à la croissance. C'est direct.
Tout ça dans une ambiance générale qui, d'après le rapport, est plus incertaine aussi.
Oui, le sentiment d'incertitude grimpe de 10 points par rapport à 2024. Et logiquement, le sentiment d'être bien préparé, lui, baisse.
Donc, plus de prudence, moins d'investissements prévus.
Un peu plus de prudence, oui. Deux tiers des entreprises prévoient encore d'augmenter leurs investissements, ce qui reste solide, mais c'était 80% l'an dernier. Donc un léger frein.
Mais j'imagine qu'encore une fois, la maturité numérique joue un rôle de bouclier.
Exactement. C'est la constante qu'on retrouve tout au long du rapport. Les entreprises matures restent bien plus optimistes sur leurs investissements futurs et elles se sentent nettement mieux préparées. Elles continuent aussi d'explorer de nouveaux marchés, de nouveaux services plus activement que les autres.
Fascinant. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un paysage assez complexe, d'un côté pas mal d'incertitudes économiques, géopolitiques, des défis importants sur les coûts, l'intégration de l'IA, la pénurie de talents.
Oui, un contexte exigeant.
Et de l'autre côté, les bénéfices très clairs, très concrets de la transformation numérique pour celles qui s'y engagent vraiment. Et puis une durabilité qui devient un vrai levier stratégique, pas juste une contrainte.
C'est exactement ça. Un tableau plein de contrastes.
Vraiment.
Et ça amène peut-être à une dernière réflexion un peu provocatrice. Dans ce contexte incertain, où on voit bien les difficultés, les coûts, la complexité d'implémenter des technologies comme l'IA, mais où on voit aussi à quel point la maturité numérique apporte de la résilience, des avantages concurrentiels et facilite même les progrès en durabilité, le plus grand risque pour une entreprise, finalement, ce ne serait pas de ralentir sa transformation numérique en se disant « attendons que ça passe, malgré les obstacles immédiats, peut-être qu'il faut justement garder le cap sur le long terme, voire au-delà des turbulences actuelles. » C'est peut-être ça la vraie nécessité aujourd'hui.